Bienvenue dans Questions politiques, l'émission politique du dimanche sur France Inter, France Info et en partenariat avec le journal Le Monde. Jusqu'à 13h en direct, nous recevons aujourd'hui l'un des plus farouches opposants au gouvernement sur la gestion de la crise du coronavirus, notamment. Nous lui demanderons comment mieux répartir les vaccins, comment aller plus vite. Nous parlerons aussi d'écologie. Pas franchement pour lui un sujet de prédilection. Faut-il modifier sur ce point la Constitution? Nous lui poserons la question. Et puis surtout sur la laïcité, sur la sécurité, son discours sera-t-il toujours aussi tranché à moins de 13 mois de l'élection présidentielle et alors que le Front républicain donne aujourd'hui de sérieux signes de fatigue, s'en réjouit-il? Le vice-président du Rassemblement national, l'eurodéputé Jordan Bardella, est notre invité. Vous pouvez intervenir avec le hashtag #QuestionPol ou sur l'application mobile de France Inter.
France Inter, question politique.
Bonjour Jordan Bardella.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à
d'abord.
Vous.
Pour vous interviewer, l'équipe resserrée et toute féminine de questions politiques. Bonjour Nathalie Saint-Cric
bonjour
de
Karine,
France Télévisions.
Bonjour à tous.
Et Françoise Fraissos du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
Jordan Bardella, vous avez commencé à militer au Front National à l'âge de 16 ans. Ça fait donc quasiment 10 ans aujourd'hui que vous militez. Sincèrement, est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui le parti auquel vous avez adhéré?
Oui.
Vous hésitez.
Pendant non parce que j'essaie de réfléchir un peu à la manière dont je vais aborder votre réponse qui à mon avis s'analyse de la manière suivante. Pendant longtemps le Front National a été qui est devenu le Rassemblement National a été vu, perçu comme un parti d'opposition, comme un parti de contestation qui a pris à bras le corps un certain nombre de thématiques. Alors ça a été vrai historiquement sur la question de l'immigration, sur la défense d'une Europe des nations. Aujourd'hui, nous sommes crédités à Marine Le Pen est créditée à 48% au second tour de l'élection présidentielle. Et ce sondage, il nous oblige. Voilà, ce sondage, il nous oblige. Toutes les analyses que nous avons faites depuis un certain nombre de temps sur la critique de la mondialisation, sur la montée de l'islam radical dans notre pays, sur ce grand désordre aujourd'hui qui orchestre la vie des Français qui sont aujourd'hui entourés, encerclés par l'insécurité. Tous ces constats sont partagés par une majorité de Français. Et donc aujourd'hui, nous travaillons à l'accession aux responsabilités dans quelques mois.
Mais vous savez très bien que ce n'est pas ça ma question. Ma question, c'est, vous aviez adhéré à un parti qui ne voulait pas de l'euro, qui ne voulait pas de l'Europe, qui ne voulait pas de Schengen, qui ne soutenait surtout pas Nicolas Sarkozy, qui avait même tendance à sérieusement le contester. Aujourd'hui, vous soutenez tout ça, voire vous le défendez même. Honnêtement, est-ce que vos militants réussissent encore à reconnaître le parti?
On a des principes, et en politique, lorsqu'on a des principes, on doit les appliquer également à nos adversaires. Lorsqu'on estime que
vous avez des principes qu'on varie, qu'on change
politique, non. Lorsqu'on ressent qu'un personnage politique, qui plus est, qui a été président de la République, avec qui on a énormément de désaccords politiques, ça, je crois que tout le monde sera d'accord pour le dire, et qu'on estime qu'il est effectivement mis en cause de manière juste ou injuste, je veux dire la cour d'appel le dira, mais lorsqu'on estime qu'il y a un gouvernement des juges qui s'installe dans notre pays par un parquet national financier qui est dirigé par des gens dont ils ont dit à plusieurs reprises qu'ils recevaient des pressions politiques devant par exemple une commission d'enquête parlementaire. Bien oui, on s'interroge. Sur l'espace Schengen, on a simplement précisé le modus operandi qui voulait que lors de notre accession aux responsabilités, nous allons récupérer la maîtrise de nos frontières.
Pour être François très Fraisseau. Clair, parce que en fait, ce qui est très déstabilisant dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au fond, les convictions d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Sur la monnaie unique, Marine Le Pen disait un cadavre qui bouge encore, l'euro, il faut s'en débarrasser. Pourquoi aujourd'hui vous dites non, on fait avec?
Nous avons évolué sur un certain nombre de points. Et c'est vrai que le rapport qu'on avait à l'Union européenne il y a quelques années n'est pas le même qu'aujourd'hui.
Il s'agissait
en 2017 d'avoir une rupture franche avec l'Union européenne. Alors ça a été dit, nous l'avons dit, mais nous allons continuer de le réexpliquer dans le cadre de l'élection présidentielle. Il n'est pas question notamment de sortir de l'euro. Il n'est pas question de sortir de l'euro parce que, vous savez, lorsqu'on se présente aux élections pour la troisième fois consécutive, comme c'est le cas pour Marine Le Pen, lors de sa troisième élection présidentielle, il faut savoir aussi prendre en compte et écouter ce que vous ont dit les Français lors des précédentes élections présidentielles qui se sont soldées par des échecs. Beaucoup de Français aujourd'hui sont critiques sur le fonctionnement de l'Union européenne, ils sont critiques sur le fonctionnement de la monnaie unique, mais ils ne souhaitent pas en sortir. Eh bien, nous organiserons des négociations avec nos partenaires européens pour permettre de mettre de côté les points les plus négatifs. Nous voulons notamment revenir sur l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, renégocier sur la possibilité de la BCE de prêter directement aux États. Mais il ne sera pas question, et je le dis, et merci de me permettre de le rappeler, dans le projet présidentiel de 2022, de sortir de l'euro. Je crois qu'il y a des priorités aujourd'hui.
Comment vous passez d'europhobe, ou en tout cas de sérieux eurosceptique, à aujourd'hui quasiment pro-européen ?
Mais nous n'avons jamais été contre l'Europe. Nous avons été opposés au fonctionnement actuel de l'Union européenne. C'est pas pareil. L'Europe qui a fonctionné dans l'histoire, c'est l'Europe des projets. C'est l'Europe des coopérations entre États. C'est l'Europe qui nous a donné Ariane, c'est l'Europe qui nous a donné Airbus. Or, plus l'Union européenne s'est approfondie dans sa construction, plus les nations européennes se sont affaiblies. Et on le voit bien sur la vaccination aujourd'hui. Enfin, je veux dire, le fait que à peine 7 à 8% de la population européenne est reçue, la population des pays européens est reçue une dose de vaccin, veut bien dire qu'à chaque fois que l'Union européenne touche à quelque chose, c'est un échec majeur. Donc, nous souhaitons aujourd'hui, avec l'ensemble de nos alliés que nous avons dans les autres pays européens, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années encore, revenir sur les aspects les plus néfastes de l'Union européenne.
Donc c'est un discours de façade, mais vous êtes toujours aussi critique.
Mais récupérer notre souveraineté. Récupérer la supériorité du droit national sur le droit européen. Récupérer la possibilité de faire du patriotisme économique, récupérer la maîtrise de nos frontières, tout cela, nous le négocierons lorsque nous arriverons aux responsabilités. Peut-être que les moyens ont évolué, mais en tout cas, la finalité, qui est celle de notre souveraineté nationale, elle n'a pas changé.
Alors, je voudrais vous poser deux questions. Vous dites que les sondages vous obligent. Ça veut dire que quand on est susceptible d'arriver au pouvoir, on est obligé de changer de théorie et de dire des choses qui sont plausibles, praticables. Est-ce que c'est ça que ça veut dire ? C'est en gros, on doit arrêter de dire n'importe quoi. Je dis pas ça de toute façon polémique du tout. Deuxièmement, qui chez vous réfléchit et décide ? Parce que dans certains partis, il y a des bureaux nationaux, des bureaux politiques, il y a des congrès. La ligne,
y compris chez nous, je vous rassure.
Non, mais je veux dire, le corpus, il est établi à quel moment et qu'est-ce qui a été votre déclencheur et savoir, dernière question, après j'arrête, si vous êtes vous aussi salvinisé. Je fais référence à l'accord qui est entre Mario Draghi et Salvini, qui fait finalement tout ça, le corpus idéologique d'avant, bon, finalement, mais jette ça aux orties. Donc,
je
qui décide
majorité,
qu'est-ce qui vous a fait changer ?
Je dis qu'une majorité de Français partagent les grandes orientations qui sont aujourd'hui les nôtres. Souvent, on nous a dit y compris d'ailleurs parmi les journalistes, vous en rajoutez, vous en faites trop, la réalité n'est pas celle-ci, vous exagérez une forme de réalité. Or, on voit bien aujourd'hui que sur un certain nombre de sujets, notamment sur la question de l'islam radical dans notre pays, sur la question extrêmement concrète de l'insécurité, dont on voit que des émeutes arrivent quasi quotidiennement dans notre pays, on ne peut plus dire aujourd'hui qu'on exagère. Donc évidemment, lorsqu'on est à 48%, on est obligé, voilà, parce que on n'a pas simplement notre socle électoral à rassembler, mais nous avons aujourd'hui vocation
à rassembler
une majorité de Français et à entendre aussi les critiques que nous ont fait une majorité de Français lors de l'élection présidentielle. Vous savez, je pense qu'en politique, la remise en question, c'est sain. Et si vous voulez, nous ne sommes pas des forcenés. On n'est pas seuls dans notre bulle. Depuis le siège du Rassemblement national, enfermés, on écoute aussi ce que nous disent nos compatriotes. On écoute aussi ce que nous disent nos concitoyens dans un monde qui évolue, dans des pays européens où sont en train de revenir aux responsabilités. C'est le cas de la Ligue, notamment en Italie. Des pays qui partagent notre volonté de transformer radicalement la construction européenne. Donc c'est vrai qu'au niveau européen, aujourd'hui, il s'agirait de tout changer sans rien détruire. Mais c'est vrai, mea culpa. Nos propositions ont pu paraître, en tout cas s'agissant de la rupture franche assumée avec l'euro et l'Union européenne, anxiogènes aux yeux d'une majorité de Français. Eh bien, on a entendu ces critiques et nous allons aujourd'hui travailler. Nous travaillons aujourd'hui activement avec des gens qui sont spécialisés de tel ou tel sujet. On parlait tout à l'heure de la laïcité. Le contre-projet de loi que nous avons fait sur le séparatisme, nous l'avons travaillé avec un magistrat qui est Jean-Paul Garot, qui est un ancien député des Républicains, qui a participé à la création du parquet national antiterroriste et qui aujourd'hui travaille avec nous sur les questions de justice. Donc nous travaillons à construire un projet sérieux, équilibré, qui puisse recevoir effectivement l'approbation d'une majorité de Français en 2022. Mais en tout cas, ne doutez pas de notre volonté d'arriver aux responsabilités, parce que je peux vous dire que plus nous nous approchons de l'Élysée, plus nous nous y préparons.
François, alors, restons sur le terrain économique et social. Vous dites maintenant, on reste dans l'euro. Vous dites aussi, on rembourse la dette. Comment faites-vous pour rembourser la dette ? Qui va la payer ? Et quel est aujourd'hui l'état de votre projet économique et social ?
D'abord, la dette, je crois que c'est avant tout de la confiance. C'est de la confiance entre l'État, entre les acteurs économiques et entre les épargnants. La France n'est pas un pays du tiers-monde. La France est la 7e puissance mondiale. On n'annule pas la dette de la France comme on a pu par le passé annuler la dette d'un certain nombre de pays peu développés sur le plan économique. Annuler la dette, c'est ouvrir la porte à toute une série d'annulations, d'obligations, qui pourraient demain, par exemple, amener le système bancaire.
Ma question n'est pas celle-là.
Bancaire, mais je vais vous répondre. Amener le système bancaire pour se renflouer et aller se servir, comme on l'a vu en Grèce ou à Chypre, sur le compte des épargnants, directement en ponctionnant l'épargne de nos concitoyens. Donc ça, nous ne le voulons pas. effectivement que la dette devra être remboursée, on n'annule pas une dette. Et pour cela, il faut mettre en place un principe qui a été mis en place après la guerre, c'est-à-dire un étalement de la dette sur le temps long et étaler la dette sur 50, 60, 70, 80, 100 ans, comme c'est fait avec les dettes de guerre. Voilà. Si vous voulez, il s'agit de réfléchir à un système qui permettrait de rembourser la dette sur le long terme sans qu'elle pèse immédiatement et directement sur la reprise économique qui est aujourd'hui nécessaire. Voilà.
Maintenant, la dette. Il faudra un nouvel impôt ou pas?
Maintenant, non, je ne le crois pas. Il faut peut-être faire un certain nombre d'économies. Vous savez que nous travaillons.
Sur quoi?
Sur tout un tas d'économies dans ce qu'on appelle les mauvaises dépenses de l'État. Mmh. Je pense par exemple à la question de la fraude qui pourrait représenter plusieurs milliards d'euros d'après notamment les travaux qui ont été faits par le magistrat Charles Prats. On voit effectivement qu'on a beaucoup de cartes vitales qui sont en circulation et qui comportent des numéros erronés. Là, nous proposons notamment de mettre en place la carte vitale biométrique qui permettrait de limiter la fraude, faire des économies sur l'immigration. Parce que moi, je veux bien qu'on nous explique que la France bénéficie de l'immigration, mais il va falloir nous expliquer comment est-ce qu'alors que nous avons 5 millions de chômeurs, maintenant 6 millions de chômeurs, toutes catégories confondues, 10 millions de pauvres dans notre pays...
Donc ça, c'est ce que vous disiez déjà pendant la campagne présidentielle de 2017.
1 million de ménages qui sont dans l'attente d'un logement social. Comment est-ce que le fait d'accueillir 470 000 personnes chaque année permet de bénéficier aux comptes sociaux? Donc il faut faire des économies également sur l'immigration, il faut faire des économies sur la décentralisation. Il y a un certain nombre de rapports qui sont sortis qui nous disent qu'on peut faire des économies sur la décentralisation. Donc il y a des pistes d'économies, mais qu'il nous faut faire avant d'aller demander des efforts toujours aux mêmes, à savoir aux classes populaires et aux classes moyennes. Et notamment dans le cadre, puisque vous me demandiez ce que nous allons proposer dans le cadre de l'élection présidentielle, nous mettrons tout pour les TPE-PME. Voilà. Nous ferons en sorte que nous puissions simplifier aujourd'hui les normes toujours plus complexes qui sont imposées aux TPE-PME, baisser la fiscalité pour les entreprises et réformer notamment les droits de succession qui pèsent aussi bien pour les grands groupes que, par exemple, pour les agriculteurs qui sont extrêmement pénalisés aujourd'hui.
Est-ce que vous êtes toujours attaché à la retraite à 60 ans? Rétablissement de la retraite à 60 ans, ou est-ce que c'est un des paramètres qui peut bouger compte tenu de votre évolution?
Nous sommes attachés à un système de retraite équilibré qui puisse prendre en compte également les réalités démographiques, le poids du chômage
c'est pas
aujourd'hui.
La question, parce
que je vais vous répondre. Je peux vous répondre par oui, que oui ou que non, mais c'est quand même extrêmement difficile sur la question des retraites. Pour vous répondre très clairement, nous avons toujours défendu une retraite à 40 annuités pleines, voilà. Avec un âge de départ légal à 60 ans. Maintenant, vous rentrez aujourd'hui en moyenne sur le marché du travail à 22 ans et demi, donc avec effectivement 40 annuités, vous partirez à la retraite à 62 ans et demi. Mais nous avons été extrêmement attachés au fait de conserver les spécificités d'un certain nombre de régimes. On n'imagine pas, et personne ne peut imaginer, qu'un marin pêcheur ou qu'un militaire travaille jusqu'à 65 ans, là où le programme de M. Macron était injustifié d'un point de vue économique.
Et d'avoir engagé à aucune hausse d'impôts.
C'est une promesse que nous avions mise en œuvre dans les mairies que nous dirigeons. Nous avions respecté cet engagement. Et dans toutes les mairies qui sont aujourd'hui gérées par le Rassemblement National, où nous avons été réélus largement au premier tour l'an dernier, nous n'avons pas augmenté la fiscalité et nous l'avons baissée partout où c'est possible. Et cette promesse, nous la mettrons en œuvre, y compris lorsque nous arrivons aux responsabilités.
Nathalie Sacré. Juste sur l'assurance chômage qui est en ce moment, il y a une des négociations actuelles en vue de modifier. Quel est votre point de vue? Est-ce que vous considérez que c'est un durcissement? Est-ce que vous avez...
Je considère que les réformes à la fois de l'assurance chômage et les réformes des retraites qui étaient mises en œuvre par Emmanuel Macron étaient des réformes antisociales. Voilà, c'était des réformes antisociales parce qu'elles ne se justifient pas d'un point de vue économique, que à l'heure où nos compatriotes vont être très sévèrement touchés par la fin des aides et par une relance économique qui peine à venir, je trouve que remettre la réforme de l'assurance chômage à compter du 1er juillet sur la table est extrêmement malvenue et revient à mettre de l'huile sur le feu.
Alors, sur la dette et sur Nicolas Sarkozy, on a bien compris que vous aviez changé de discours, que Marine Le Pen envoie des signaux à cet électorat.
Pas sur le fond de la politique qui a été conduite par M. Sarkozy, mais il s'agit juste, lorsqu'on a des principes, de les appliquer également à nos adversaires.
Voilà, pour Nicolas Sarkozy. Donc, et je parlais également de la droite. C'est quand même des signaux que vous envoyez gentiment au parti Les Républicains, en tout cas à ses électeurs. Et en face, dans le camp d'en face, à gauche, on se rend compte que le Front Républicain commence à s'effriter sérieusement. L'électorat de gauche n'est plus sûr de se déplacer pour aller voter contre Marine Le Pen à la prochaine présidentielle. Jordan Bardella, est-ce que vous dites ça y est, c'est gagné, on est au bout du Front Républicain en France?
Je pense que ces anathèmes qui ont été alimentés pendant de nombreuses années à notre égard n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et que les Français voient bien que sur tout un tas de sujets, nous avions eu raison avant tout le monde et ça nous nous accorde probablement une légitimité dans la résolution d'un certain nombre de phénomènes qui touchent aujourd'hui le pays. Vous voyez, moi, j'ai jamais été convaincu qu'il fallait une union des droites à tout prix et qu'il fallait une union à tout prix avec le Parti des Républicains. Parce que je pense que le discours que nous avons aujourd'hui, souverainiste, national, populaire, de patriotisme économique notamment, peut parler également à des électeurs de l'ancienne droite, mais également à des électeurs de gauche. Et je vois qu'à gauche, cette ligne de la laïcité a fracturé aujourd'hui toute une partie de la gauche. Il y a une partie de la gauche qui a sombré dans ce qu'on a appelé l'islamo-gauchisme. Voilà, toute une partie de la gauche qui, en novembre 2019, à côté du Bataclan, a manifesté, je parle de M. Mélenchon, de M. Jadot, aux côtés du CCIF, où on a entendu dans ces manifestations hurler « Allah Akbar » à 100 mètres du Bataclan. Il y a toute une partie de la gauche qui, on l'a vu il y a quelques jours, de manière très concrète, dans les universités, accompagne ce mouvement d'islamo-gauchisme, de culpabilisation permanente des majorités, qui vise à communautariser la société française. Or, il y a toute une partie de la gauche qui reste attachée à la souveraineté populaire, qui reste attachée à la souveraineté nationale, qui a un discours extrêmement républicain sur la laïcité, sur l'immigration, et qui probablement se reconnaîtra dans le discours.
Et il y a une partie de la gauche qui continue à dire que Marine Le Pen, c'est l'ennemi de la République. Christophe Castaner, je pense également à Clément Beaune,
Castaner, il agite des chiffons rouges. Voilà, Monsieur Castaner, c'est celui, il faut le rappeler, qui a mis un genou à terre, qui a lâché les forces de l'ordre lorsqu'il était ministre de l'Intérieur et qui a mis un genou à terre devant les Traoré. Voilà, qui a déshonoré la fonction de ministre de l'Intérieur et qui effectivement va sur les plateaux pour agiter le chiffon rouge en disant mais ils sont d'extrême droite, c'est un danger, etc. Sans jamais nous donner un argument qui pourrait nous permettre de débattre de cette question. Donc, moi, je profite d'être à votre micro pour offrir un débat à M. Castaner. Voilà, je propose un débat à M. Castaner et je souhaiterais qu'il vienne nous expliquer aujourd'hui de manière très rationnelle, très fondée, en quoi est-ce que nous représenterions une menace et un danger pour la République. Parce que moi, je considère aujourd'hui
que vous ne respectez pas toujours les principes républicains, Jordan Bardella.
Lesquels ?
Bah, je sais pas, par exemple, quand Marine Le Pen dit que les étrangers qu'il faudrait expulser parce qu'effectivement, ils ont commis des infractions en France, mais que des pays ne souhaitent pas, leur pays ne souhaite pas les récupérer, qu'il faut les enfermer à vie dans des centres de rétention. En France, on n'enferme personne à vie dans des centres de rétention s'ils n'ont pas été jugés et condamnés.
Mais il s'agit pas je sais pas où est-ce que vous avez vu qu'on voulait enfermer à vie des gens dans des...
Mais c'est ce qu'elle a dit
On considère que des gens qui n'ont rien à faire chez nous doivent effectivement être renvoyés vers leur pays d'origine. Madame, lorsque à Reims, l'un de vos confrères, un journaliste, est laissé pour mort, et que l'auteur de cette agression, comme il en existe des centaines aujourd'hui dans notre pays, puisqu'il y a une agression gratuite qui est commise toutes les 44 secondes dans notre pays, s'avère être un Algérien qui a été condamné à 8 reprises dans notre pays entre 2018 et 2019, qu'il bénéficie d'une carte de séjour espagnole. Donnez-moi une bonne raison, une seule, de conserver sur notre territoire des gens qui présentent un danger, un risque et une menace pour la sécurité nationale.
C'est absolument pas la remarque que j'ai faite. Je dis simplement dans un centre de rétention, il faut qu'il soit jugé et condamné pour pouvoir rester à vie dans un centre.
Non, madame, parce que le simple fait d'être présent de manière clandestine dans notre pays est une violation de la loi. Parce que, vous voyez, lorsqu'on rentre chez vous sans y avoir été invité, c'est une violation de votre propriété privée. Eh bien, moi, je considère qu'avec la Maison France, c'est pareil. Et qu'aujourd'hui, l'État est bien impuissant à gérer la question de l'immigration, parce qu'aujourd'hui, ce sont les immigrés eux-mêmes qui décident de la politique migratoire. Il y a 470 000 personnes qui rentrent, incluant les titres légaux, les clandestins, les mineurs étrangers, les déboutés du droit d'asile qui viennent dans notre pays et qui ne sont jamais expulsés. Il y a seulement 12% d'exécution des OQTF, c'est-à-dire les obligations de quitter le territoire français. Donc, nous aurons en tout cas aux responsabilités cette volonté de remettre de l'ordre. Et je vais vous dire, le parti qui menace aujourd'hui et le mouvement politique qui menace aujourd'hui l'ordre dans notre pays et la paix civile dans notre pays, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il est l'homme du désordre. C'est lui, le chaos social, c'est lui. Les manifestations qui ont été réprimées dans le cadre des gilets jaunes, dans le cadre de la réforme sociale, des retraites, c'est eux. La loi Avia, qui faisait reculer notre liberté d'expression et qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel, c'est eux. L'impuissance à l'égard des bandes qui attaquent nos policiers tous les jours dans les quartiers, c'est eux. Donc Monsieur Macron, il est l'homme du désordre et son ministre de l'Intérieur, lui, est l'homme du
passé. Alors, je voudrais juste une précision, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris quand j'ai suivi le débat sur France 2, Marine Le Pen, Gérald Darmanin. À un moment donné, Marine Le Pen dit à Gérald Darmanin, j'aurais pu signer votre livre, j'aurais pu l'écrire. Donc si elle a pu l'écrire, c'est qu'elle est d'accord avec lui, et si elle est d'accord avec lui, c'est qu'il fait des choses bien, et que s'il fait des choses bien, c'est que c'est pas le chaos.
La conclusion est un
ou
peu
alors
rapide.
C'est un truc politique à 15 bandes.
Moi, j'ai lu le livre de monsieur Darmanin.
Moi aussi.
Évidemment que les constats qui sont faits, nous pouvons les partager. Mais il n'y a plus personne aujourd'hui.
Il n'y a pas
plus personne aujourd'hui qui vous explique, à part peut-être une partie de la gauche qui est dans une forme d'angélisme, de naïveté, et probablement avec des visées électoralistes, qui considèrent qu'il n'y a pas de problème avec le communautarisme et avec l'islamisme dans notre pays.
Darmanin lorsque partage monsieur exactement
Darmanin,
ce diagnostic.
Oui, mais lorsque monsieur Darmanin parle d'ensauvagement de la société comme nous le faisons depuis 10 ans, enfin, je veux dire, à un moment donné, si vous voulez, le réel rattrape les caricatures, le réel rattrape les anathèmes.
Et moi, vous
ce que je trouve cynique, c'est que au plus haut sommet de l'État, ils savent. Ils savent qu'il y a dans un certain nombre de quartiers aujourd'hui que la paix civile est menacée.
Combien de quartiers?
Mais madame, souvenez-vous du livre que monsieur Hollande a écrit avec vos confrères du Monde, monsieur Davet et l'Homme. Mmh. Il dit dans ce rapport, qui me remontent sur la situation des banlieues me font penser à une situation de guerre. Lorsque le patron du renseignement, en 2016, monsieur Calvart, Patrick Calvart, l'ancien patron des renseignements, nous dit, nous sommes au bord de la guerre civile dans un certain nombre de quartiers. Lorsque monsieur Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, nous dit lorsqu'il est aux responsabilités, nous vivons aujourd'hui dans un certain nombre de territoires, non plus côte à côte, mais face à face. Enfin, pardon, mais il n'y a pas mieux informé qu'un ancien président de la République, qu'un ancien ministre de l'Intérieur et que le chef du renseignement. Donc, vous voyez bien que tout ce que nous avons dit depuis des années, à savoir que sont en train de s'organiser aujourd'hui dans un certain nombre de territoires, des petites républiques islamiques, des quartiers qui sont complètement livrés au trafic de drogue, à la délinquance et à la criminalité. Aujourd'hui, nos concitoyens, ils sont encerclés par l'insécurité, dans les transports, dans le métro, en allant faire leurs courses, en ayant l'inquiétude que lorsque leurs enfants sortent dehors, ils soient agressés, ils soient raquettés, ils soient pris à partie et parfois même lynchés pour mort, comme on l'a vu avec ce jeune Yuri il y a quelques semaines. Lorsqu'on voit que des policiers tous les jours dans notre pays sont pris à partie. Et monsieur Darmanin se déplace dans les commissariats. Alors il fait des bons constats, il se déplace en condamnant. Mais on n'attend pas d'un ministre de l'Intérieur qu'il soit l'homme du passif. On attend d'un ministre de l'Intérieur qu'il prenne ses responsabilités, qu'il agisse, qu'il remette de l'ordre. Et je peux vous dire qu'avec nous, dans quelques mois, si les Français le décident et nous confient les responsabilités en mai 2022, eh bien ils auront la certitude qu'il y aura des poursuites, il y aura la certitude des sanctions et ils auront la certitude de l'exécution des peines.
Examinons de près la proposition de loi justement de lutte contre l'islamisme qu'a présentée Marine Le Pen début janvier. Elle stipule que le port du voile sera interdit sur la voie publique, qu'un fonctionnaire pourra refuser un avantage à un suspect d'islamisme, qu'il s'agisse d'un logement ou d'une prestation sociale. Est-ce que vous trouvez que c'est pas assez inquiétant au fond de définir une législation d'exception sur autour d'un terme qu'on n'arrive pas bien à définir et en qualifiant les possibles accusés de suspects. Est-ce que c'est pas là entrer dans un monde complètement, radicalement différent d'une autre, avec au fond tout ce qu'on a pu reprocher à des régimes autoritaires, c'est-à-dire l'arbitraire, et au fond, est-ce que vous n'allez pas complètement incendier la société française?
Madame, la société française, elle est déjà en train d'être incendiée.
Mais c'est votre constat, mais moi je le vois pas, vous voyez.
Ah, vous voyez pas qu'il y a eu 260 Français qui sont morts sous les balles et les lames du fondamentalisme islamiste depuis 2015?
Bien sûr, mais c'est pas général.
Vous voyez pas qu'il y a
enseignants,
madame, qui aujourd'hui dans notre pays attrapent à quelques kilomètres de la capitale, vont travailler avec l'escorte de la police nationale.
Mais la question, c'est la question que je vous posais tout à l'heure, c'est combien,
Vous voyez pas qu'il y a des cafés aujourd'hui,
par rapport à combien en fait
qu'il y a des cafés dans notre pays, des coiffeurs qui ne sont plus mixtes, comme c'est le cas d'une grande majorité des coiffeurs attrapes, qui sont aujourd'hui sous l'emprise de l'islamisme radical.
Mais est-ce que vous pouvez le quantifier?
Vous ne voyez pas qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, madame,
mais qu'est-ce que c'est
50%,
un suspect d'islamisme,
50% des enseignants qui s'auto-censurent dans les classes? Vous ne voyez pas qu'il y a des enseignants dans notre pays aujourd'hui qui n'enseignent plus la Shoah ou la guerre d'Algérie de peur de déclencher un incendie dans la classe? Vous voyez pas qu'il y a, comme ça a été le cas à Sciences Po Grenoble il y a quelques jours, des enseignants à qui on met des fatwas sur la tête parce qu'ils ont eu le malheur aux yeux d'une minorité aujourd'hui de plus en plus importante, certes, je vous l'accorde, de gens qui remettent en cause aujourd'hui nos valeurs, notre
Alors,
mode de vie, notre laïcité.
Qu'est-ce que vous feriez
Nous, voyez, nous attaquons l'idéologie islamiste, nous attaquons ses relais, ses militants, ses associations. Il faut
Donc,
dissoudre
tous en prison,
aujourd'hui.
Tous arrêter. Comment vous faites?
Non, mais sincèrement, qu'est-ce que vous proposez?
On est plus faible à l'égard de l'islamisme que ne le sont certains pays musulmans eux-mêmes. Lorsqu'il y a eu des attentats en Tunisie ou en Égypte, on a immédiatement, ces dernières années, immédiatement fermé les mosquées radicales. On a immédiatement mis les frères musulmans sur la liste des organisations terroristes. Alors, les frères musulmans, le CCIF, toutes ces organisations dans notre pays, elles accompagnent une idéologie qui organise des attentats dans notre pays. Toutes ces organisations doivent être dissoutes. Il faut dissoudre les organisations qui ont refusé de signer la charte sur la laïcité. Le gouvernement a mis sur pied une charte de respect des principes républicains qui a au moins le mérite d'exister. Il y a des associations, notamment les Miligorus. Les Miligorus turcs, l'outil d'influence de la Turquie dans notre pays. Il y a Foi et Pratique et le relais du Tablir en France, qui est l'une des doctrines, l'une des visions les plus radicales de l'islam dans le monde. Ces associations ont refusé de signer une charte dans laquelle il était dit clairement que les associations devaient renoncer à criminaliser l'État français, à taxer l'État français.
Mais c'est la loi sur les séparatismes du gouvernement, tout ça, monsieur
Bardella. Ces associations qui refusent justement de signer ces chartes, de neutralité aujourd'hui de l'islam à l'égard des institutions de la République et de l'espace public doivent être dissoutes. Il faut expulser de notre pays.
Est-ce que vous avez des outils différents que ce que propose le projet de loi?
Oui, la volonté politique, le courage et la volonté politique. Lorsqu'il y a, madame, 4000 individus étrangers dans notre pays qui sont suivis pour radicalisation et qui restent sur le territoire français et qui sont présentes alors qu'ils sont étrangers, il faut les expulser.
Et vous savez
très bien. Il faut mettre en place un principe de précaution. Expulser les gens qui n'ont rien à faire dans notre pays, qui représentent une menace pour la sécurité nationale, c'est protéger la population française. Enfin, je veux dire, ça n'a pas suffi, tout ce qu'on a, subi dans notre pays.
Les questions sont plus précises. Je reprends un petit peu la question de Françoise. On s'est juste dit, quand on a vu le texte de M. Garraud, qui est pourtant juriste, et qui connaît que être suspect d'islamisme, ça ne veut rien dire. On peut être suspect de communisme, suspect d'avoir braqué une banque. Tant qu'on est suspect mais qu'on ne l'a pas fait, ce n'est pas un critère de droit. Ça, c'est la première chose. Quand vous dites un principe de précaution pour expulser, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez très bien, et Patrick Stefanini, qui n'était pas un dangereux gauchiste, l'a expliqué dans un de ses livres, c'est-à-dire que quand on n'a pas de laissez-passer consulaire, quand on ne connaît pas vraiment la nationalité de la personne, on ne peut pas le rapatrier. Quand un certain nombre de pays, il y a un certain nombre de Maliens qu'on a essayé de raccompagner au Mali, le Mali ne souhaite pas, puisqu'il y a une partie de son PIB qui est constituée par l'argent qui est envoyé.
C'est ce dont on parlait tout à l'heure.
Est-ce que vous pensez qu'ils sont juste totalement nuls et que vous seriez plus capable de le faire? Mais c'est cette espèce de flou et juridique et dans la possibilité. C'est ça les questions qu'on vous pose.
Je pense effectivement qu'ils sont nuls. Vous dites Monsieur Sarkozy,
Monsieur
Sarkozy qu'on cherche quand même à réhabiliter comme étant l'une des figures d'autorité à l'égard de l'immigration et de l'islamisme. Je vous rappelle qu'il a fait rentrer 1 million d'étrangers sous son quinquennat, 1 million d'étrangers en 5 ans, c'est-à-dire plus que n'en a fait rentrer Monsieur Jospin, et qu'il a intégré notamment les frères musulmans, l'UOIF, en 2003 au travers du Conseil français du culte musulman.
Mais la question de Nathalie Sacré qui est précise, c'est un pays qui refuse de récupérer ses ressortissants.
Alors ça, c'est une question, vous avez raison, c'est une question extrêmement concrète qui relève davantage de la diplomatie. Parce que bien souvent, ces pays, vous évoquez
Gérald Darmanin va régulièrement dans ces pays pour essayer de négocier diplomatiquement.
Et pour rendre hommage au FLN.
Franchement, c'est ça. On peut dire ce qu'on veut, mais il y va pour négocier justement.
Oui, M. Darmanin, il va, effectivement, il est allé. Pour rendre hommage au FLN et pour rendre hommage à des organisations terroristes qui ont organisé sur le sol français, puisque c'était le sol français à l'époque, des attentats et des crimes contre l'État français. Donc effectivement, dans la repentance et dans la culpabilité, ils sont très bons.
Emmanuel Macron a refusé la suite du rapport Soral,
autre chose. Alors je vais vous répondre, ce sont généralement des pays à qui nous donnons de l'aide au co-développement.
Public d'État.
Eh bien, il faut mettre en place...
Conditionner.
Exactement. Il faut mettre en place aujourd'hui des contreparties diplomatiques. C'est-à-dire que les pays aujourd'hui qui, dans les relations qu'ils ont avec l'État français, bénéficient d'aides au co-développement, d'aides financières parfois très importantes, de plusieurs millions d'euros, continueront de bénéficier de ces aides au co-développement et à l'accompagnement de développement de structures, de projets in situ, à la condition qu'ils récupèrent leurs ressortissants qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Parce que aujourd'hui, on accueille tout le monde. La France est devenue un hall de gare, sans aucune condition. Vous rentrez, que vous répondez à l'asile ou non, vous posez vos bagages, sans aucune condition, et vous n'êtes jamais expulsé. Donc, je dis que la plupart des attentats que nous avons connus, la plupart des faits de délinquance et de criminalité que nous avons connus, remettent en cause directement la politique migratoire. Enfin, pardon, mais lorsqu'à Bordeaux, sur le premier semestre de l'année 2020, 45% des faits délictuels sont le fait de mineurs étrangers isolés, qui sont généralement ni mineurs ni isolés et qui n'ont rien à faire dans notre pays, eh bien oui, ça me pose un problème. Et oui, lorsque nous arrivons aux responsabilités, nous décréterons un moratoire sur l'immigration.
L'eurodéputé Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national, est jusqu'à 13h notre invité dans Questions politiques.
France Inter, Questions politiques.
Alors, on assiste ce week-end en France à une accélération de la vaccination, notamment grâce aux doses de vaccin AstraZeneca qui étaient destinées aux soignants pour se faire vacciner, mais qu'ils n'ont pas forcément utilisé. Est-ce qu'il faut la rendre obligatoire, cette vaccination du personnel soignant qui est au contact des malades ?
Je pense que ça serait irresponsable. Je pense que ça serait irresponsable de désigner comme bouc émissaire nos soignants qui ont fait un travail exemplaire et un dévouement exemplaire dans cette épidémie depuis maintenant plus d'un an.
On parle pas de bouc émissaire.
Parce que on voit bien qu'il y a une petite musique qui monte depuis quelques jours et qui consiste à dire que une partie des soignants ne veulent pas se faire vacciner, comme si ça était résolument, exclusivement de leur responsabilité, alors même que le gouvernement a alimenté la défiance sur le vaccin depuis le début.
Est-ce que c'est pas de leur responsabilité morale, justement?
J'ai pour le coup une position extrêmement mesurée, extrêmement équilibrée. Je pense que de rendre obligatoire la vaccination pour les soignants, c'est prendre le risque que s'exerce un droit de retrait massif à quelques jours évidemment d'un potentiel reconfinement, et que ça serait prendre le risque effectivement de remettre en cause la stabilité aujourd'hui
mais
du système.
Mais est-ce que vous appelez à ce qu'on vaccine davantage?
Bien sûr, mais on a eu une grande opération de com' ce week-end. Alors oui, tout le monde se réjouit que la vaccination accélère. Vous me direz, accélérer c'est mieux que ralentir, et compte tenu du retard qu'on a accumulé depuis maintenant le 1er janvier, c'était compliqué de tomber plus bas.
En grande partie lié à la méfiance entretenue aussi par les politiques. En décembre, tous les politiques étaient très réticents.
Mais madame, qui a alimenté la défiance? Lorsque monsieur Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, nous explique que pour l'instant, ils ont que les communiqués des laboratoires qui sont pas certains de l'efficacité du vaccin, certains que le vaccin empêche la transmission du virus, vous pouvez pas venir ensuite nous reprocher que nous sommes responsables de la défiance.
Donc
je pense qu'ils ont leur part de responsabilité là-dedans. Je pense que les mensonges du gouvernement à répétition ont alimenté ce climat de défiance.
Et pour qu'il y ait mensonges à répétition.
Tous les mensonges depuis le début de la crise.
Les mensonges?
Je sais pas, sur les masques par exemple, quand ils nous ont dit il y a un an, jour pour jour, que porter un masque était quasiment plus dangereux que de s'exposer au virus. Lorsqu'ils nous ont expliqué que maîtriser les frontières en matière épidémique n'avait absolument aucun sens sanitaire et que le virus n'avait pas de passeport.
C'est pas des mensonges, c'était à l'état... À l'époque, c'était en fonction de ce qu'on savait de l'épidémie. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'était des mensonges.
Alors, on est quand même très, très mauvais, parce que tous les pays ont fermé leurs frontières dès le début, ont au moins coupé les liaisons aériennes. Les pays qui ont bien géré cette épidémie sont des pays qui, très tôt, ont maîtrisé leurs frontières. Je n'ai pas une obsession sur la question des frontières, mais je dis juste qu'on ne peut pas demander, si vous voulez, à la population, à l'intégralité de la population, d'être confinée et de continuer à n'exercer aucun contrôle aux frontières. On nous parle beaucoup du variant sud-africain. Il se trouve que avec une politique de maîtrise stricte des frontières depuis maintenant plusieurs semaines, en Afrique du Sud notamment, le taux d'incidence a été divisé par 18 depuis que le variant sud-africain a été détecté, et ils ont fermé leurs frontières. C'est-à-dire, si vous m'expliquez que alors qu'une épidémie se diffuse à Wuhan avec un reconfinement quand même en Chine d'une région de 10 millions d'habitants, il faut continuer à avoir des liaisons aériennes avec une pays où se diffuse l'épidémie, franchement, j'ai pas le même regard que vous sur la gestion qu'il faut avoir de l'épidémie. Or, on voit bien que le gouvernement, en ayant décidé le contrôle sanitaire aux frontières un an après, a perdu du temps. Et que ça a été criminel de continuer à défendre l'ouverture des frontières alors même qu'on savait qu'une épidémie venait.
Parlons un tout petit peu du présent et de l'avenir. Vous êtes à la tête d'un hôpital. Qu'est-ce que vous dites aux soignants? Est-ce que vous avez... En ce moment, il y a un appel dans les journaux en disant « essayez de vous vacciner ». Est-ce que vous joignez cet appel?
Mais évidemment que la vaccination...
Convaincre les aides-soignants, les infirmières, en voyant que c'est plutôt les personnels moins qualifiés qui sont réticents? Est-ce que vous leur dites, tout ça c'est de l'obscurantisme?
Aujourd'hui, nous sommes à la tête d'un parti d'opposition qui a vocation à arriver aux responsabilités dans quelques mois. Donc je me mets pas, si vous voulez, à la place des soignants, à la place d'un dirigeant d'hôpital.
Vous êtes un homme politique responsable, est-ce que vous feriez vacciner devant tout le monde en disant, allons-y, c'est important, on protège tout le monde en faisant ça.
Je ne fais pas partie des publics à risque. Mais si à un moment donné, effectivement, je dois me faire vacciner, parce que, évidemment, la vaccination est ouverte à l'intégralité de la population, que nous avons des vaccins, oui, je le ferai. Oui, je le ferai.
Alors, deuxième toute petite question, est-ce que vous vous dites, maintenant parlons de l'avenir.
Question claire, réponse brève.
D'accord. Finalement, est-ce que vous vous dites pas qu'Emmanuel Macron, eh ben, il a pris un certain risque, il y avait certains paris en ne reconfinant pas, et que finalement, c'était plutôt une bonne idée quand on voit ce qui se passe actuellement. Ou alors, vous pensez que c'était une mauvaise décision?
Nous avons toujours été extrêmement réticents à l'idée de ce troisième reconfinement. On voit bien que le confinement n'est pas une solution viable à terme dans un siècle où nous allons probablement être confrontés à d'autres épidémies par la mobilité illimitée des hommes sur la planète, par la concentration urbaine aujourd'hui extrêmement importante dans les métropoles. On voit bien que si on a que comme seule solution la mise sous cloche de l'intégralité du pays, on ne va pas s'en sortir parce que le confinement, il a évidemment des répercussions économiques. Plus personne ne parle des restaurateurs. Et nous soutenons notamment l'appel de ces 40 parlementaires, d'organiser dans un respect des protocoles sanitaires stricts qu'ils ont l'habitude et qu'ils ont eu l'habitude de mettre en place à la rentrée de septembre, la réouverture des restaurants le midi, là où le virus ne circule pas.
Mais malgré tout, pour les lieux culturels. Est-ce qu'on tient sans reconfinement jusqu'au printemps? Puisque c'est le pari d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est possible?
Je ne suis pas devin.
Non, je sais bien.
Mais ce confinement, il a des dégâts considérables aujourd'hui, et plus seulement sur la vie économique, mais aussi en matière de liens affectifs, en matière d'isolement des personnes âgées. Et on ne peut pas ignorer tout cela. On ne peut pas ignorer le fait qu'on ait constaté une augmentation des suicides, y compris d'ailleurs
chez les
plus jeunes. Oui, mais...
Non, mais je ne vous demande pas de vous...
Non, mais c'est compliqué de me dire, vous me dites, Macron a raison. Non,
on sait très bien que c'est lui qui...
Si aujourd'hui on est dans cette situation, c'est en grande partie de leur responsabilité. D'accord. Alors, moi, je
ne
fais pas la
situation
course.
Ah non, attendez, de la responsabilité d'Emmanuel Macron, de quoi? Dans quelle situation? Parce qu'on a une situation assez semblable de ce qu'on vit partout,
dans l'état d'exception que nous vivons depuis un an. Dans le fait que nous avons eu l'un des confinements les plus drastiques en Europe et que nous sommes parmi aujourd'hui les plus mauvais. On a été mauvais en tout.
Par exemple, il y a des pays qui sont en confinement, ce qui n'est pas notre cas.
Mais ça n'est pas vrai, madame.
Et
je vais vous donner un élément. Lorsque monsieur Castex, le Premier ministre, nous dit la France est en tête des pays qui a protégé les personnes les plus vulnérables et en tête des personnes vulnérables vaccinées. C'est faux. Moi, j'ai été regarder ce que disent les institutions européennes. On est aujourd'hui 14 sur 22 en termes de vaccination des plus de 80 ans. Alors 22, ce sont les pays qui donnent leur taux de vaccination par tranche d'âge. Donc il faut arrêter de mentir. On a été effectivement les premiers, mais en partant de la fin, surtout. Donc, et je dis qu'ils ont effectivement été confrontés à des décisions qui n'étaient pas simples, mais qu'ils ont pris un certain nombre de mesures qui étaient arbitraires, injustifiées. Le fait d'avoir fermé les musées, les cinémas, les théâtres, alors même que tous les rapports scientifiques, y compris le rapport Fontanet de l'Institut Pasteur, nous dit qu'il n'y a pas plus de risque à recevoir et à transmettre le virus dans un musée qu'à l'école ou qu'en dans un supermarché, eh bien il faut en tenir compte. Et si nous étions aux responsabilités, nous aurions en tout cas procédé à la réouverture des lieux culturels.
Il y a des choses paradoxales dans ce que vous dites.
Aujourd'hui,
il y a des choses paradoxales parce que vous dites, voilà, à l'intérieur finalement de nos frontières, il faudrait qu'on fasse preuve de plus de confiance à l'égard des professionnels. Là, vous parlez du monde du spectacle. C'est également le cas, vous disiez à l'instant, des restaurateurs. Et à l'extérieur, en revanche, il faut fermer les frontières. Donc,
oui,
soit on a confiance dans les gens et globalement, et donc effectivement, tout le monde respecte les gestes barrières. Et donc, la vie reprend quasiment un cours normal. C'est un peu ce que vous dites à l'intérieur.
Tout à fait, madame.
Vous avez peur de l'étranger. Les étrangers ne respectent pas les gestes barrières.
C'est petit et c'est pas au niveau.
Non, je sais pas.
Non, mais
je vous
dis, c'est petit et c'est pas au niveau. Le fait d'exiger un test PCR à l'entrée du pays quand vous avez confiné pendant un an l'intégralité de votre population, je crois pas qu'il s'agisse d'une névrose à l'égard des gens qui viennent de l'étranger. Je dis juste que les pays, et notamment les pays asiatiques qui ont bien maîtrisé cette épidémie, ou en tout cas maîtrisé les frontières. Parce que effectivement, que la plupart des cas de réapparition du virus qu'on a vu à la sortie du premier confinement à l'issue du printemps, au mois de juin l'an dernier, dans un certain nombre de pays, étaient des cas qui venaient de l'étranger, étaient des cas importés. Donc effectivement que il faut continuer de protéger nos frontières avec l'exigence d'un test PCR. Enfin, il ne s'agit pas de mettre un mur, un filtre, de vous passer au scanner. Il s'agit juste de dire que lorsque l'on exige des mesures extrêmement strictes à l'égard de la population française, eh bien la moindre des choses lorsque vous arrivez d'un pays, parce que encore une fois, moi vous voyez, je regarde la situation, on regarde la souveraineté sanitaire française, mais je ne veux pas que un pays comme l'Allemagne, un pays comme nos voisins, qui a une autre stratégie sanitaire que la nôtre, ait un impact direct par l'ouverture des frontières et l'absence de contrôle sur la situation épidémique en France.
Deux questions courtes avec deux réponses courtes peut-être. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée d'un passeport vaccinal et est-ce que vous êtes d'accord avec des dons de vaccins en direction des pays les plus pauvres et les plus peuplés ?
Non et non. Non sur la première question, parce que parler d'un passeport vaccinal à l'échelle de l'Union européenne, alors même qu'on a vacciné 7% de la population et qu'on est la risée du monde, je trouve ça profondément indécent. On n'est pas face à une maladie.
À terme, sur la philosophie.
On est, non, pas du tout. On n'est pas face. Enfin, je veux dire, souvent, c'est un peu mis en parallèle avec des maladies comme Ebola, comme la fièvre jaune, qui ont des taux de mortalité qui sont 10, 20, 30 fois supérieurs à celles du Covid-19. Donc, je dis que pour susciter la transparence à l'égard la confiance à l'égard du vaccin, il faut de la transparence. Qu'on contrôle nos frontières à terme en exigeant un test PCR à l'entrée, ça me semble de vigueur et je pense que nous allons devoir le faire pendant une durée certaine. Mais je suis très réticent et opposé à l'idée d'un passeport sanitaire.
Quand la population sera suffisamment vaccinée, est-ce que ça vous semble?
Mais à l'israélienne, ils ont vacciné 80% de la population.
Je vous dis, dans la mesure où, si on tient nos engagements, on aura tous les adultes, comme l'a dit le gouvernement, qui à la fin de l'été aura été vaccinés, ceux qui sont d'accord. Est-ce que ça vous semble intéressant?
Mais non, madame. Je refuse même de j'y suis opposé. Je refuse même de rentrer dans ce débat, qu'on perde des mois, des semaines à débattre de cela, alors même qu'on est incapable de fournir des vaccins, alors même qu'on voit que c'est la course pour obtenir 10, 15 000, 20 000 zones dans des zones qui sont aujourd'hui extrêmement touchées, dont le taux d'incidence est parfois deux fois supérieur à la moyenne nationale.
Bon, vous avez bien compris, et sur les dons alors.
Et quand j'entends qu'on nous explique qu'on va aller distribuer des vaccins à la terre entière, alors même qu'on est incapable d'en fournir à la population française, que depuis le 1er janvier, les pharmaciens nous expliquent qu'ils peuvent vacciner 400 000 à 500 000 personnes par jour, et qu'ils attendent un décret parce qu'ils n'ont pas les doses, je trouve ça fou.
Jordan Bardella, on va parler d'écologie. Le projet de loi qui doit intégrer la protection de l'environnement dans la Constitution sera examiné cette semaine à l'Assemblée. C'est une étape nécessaire avant le référendum qu'a souhaité Emmanuel Macron. On vous entend pas beaucoup sur le sujet au Rassemblement National. Est-ce que la préservation de l'environnement doit être garantie dans l'article 1er de notre Constitution ?
Elle l'est déjà dans le préambule de constitutionnalité depuis 2004, qui intègre notamment par la charte de l'environnement la protection de l'environnement.
Là, on va aller plus loin.
Ce référendum aurait pu être aurait pu provoquer un grand débat avec le gouvernement sur leurs grandes orientations en matière de protection de l'environnement, en matière d'écologie. Nous avons une vision, une ligne claire, c'est les circuits courts. C'est le localisme, c'est le patriotisme économique.
Vous en parlez depuis 2010.
C'est permettre, j'en parle depuis effectivement très longtemps et depuis les élections européennes, parce qu'on peut pas être en même temps pour la multiplication des accords de libre-échange, comme continuent de le faire les députés de La République En Marche au Parlement européen, qui a accompagné un nouvel accord de libre-échange sur les investissements avec la Chine, et vouloir défendre à la fois la proximité et les circuits courts. Emmanuel Macron a déclaré une guerre au nucléaire, en voulant fermer 14 réacteurs nucléaires dans les prochaines années. L'Allemagne a fait cette expérience, elle a dû rouvrir ses centrales à charbon. Or, aujourd'hui, le nucléaire, nous y sommes extrêmement attachés, d'abord d'un point de vue de la défense de l'environnement, parce que c'est aujourd'hui l'une des énergies quasiment décarbonées les peu chères que nous ayons. Et, en l'occurrence, elle permet notamment, dans le cadre de la stratégie industrielle française, et bien effectivement d'avoir une autonomie en la matière.
Mais on s'éloigne du sujet. Revenons quand même sur cet article premier. Vous faites quoi ? Vous le votez ? Vous le votez pas ? Enfin, je veux dire.
Écoutez, nous verrons, mais ce référendum, pour moi, c'est de la communication. Je veux dire, aller demander aux Français s'ils sont pour ou contre la défense de l'environnement, mais 90% des gens vont vous répondre oui.
C'est pas exactement ça. Je veux dire, c'est au fond, demander aux Français, est-ce que vous estimez que toutes les actions qui sont conduites aujourd'hui sont susceptibles d'être validé ou pas, selon qui respecte ou non
mais tout ça c'est de la com, parce que le gouvernement
continue à
négocier et à accompagner d'ailleurs avec le Mercosur, avec le CETA, on a eu ce débat pendant les élections européennes, des accords de libre-échange avec le monde entier. Le véritable fléau aujourd'hui en matière de défense de l'environnement, c'est ce grand déménagement du monde qu'incombe à notre modèle économique. C'est ce modèle économique qui consiste à faire déplacer 60 000 super tankers sur l'intégralité de la planète et qui ont un super tanker en termes de particules fines émises, la même intensité que l'intégralité du parc automobile français. Donc, il faut revenir aujourd'hui en matière d'écologie à un peu de bon sens, à des circuits courts. Et nous proposons, lorsque nous serons responsabilisés, notamment la mise en place dans la loi du patriotisme économique. Je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, 75% du bœuf qui est consommé dans la restauration publique, dans les collectivités, c'est du bœuf d'origine importée. Alors même qu'on sait qu'il y a un agriculteur sur trois qui vit avec moins de 350 euros par mois. Eh bien, nous, nous, nous voulons faire en sorte que on inverse en fait ce coût de la distance et qu'on puisse aller se fournir d'abord au plus près du territoire avant d'aller chercher.
Qu'est-ce que c'est que ce loup ?
Mais juste, vous savez quand même que le bœuf, c'est la viande
c'est
la plus.
C'est l'obligation pour l'État et pour l'intégralité des collectivités de montrer l'exemple et de se fournir d'abord et en priorité auprès des entreprises françaises. Donc en matière agricole, ça permettrait notamment de doper la production nationale et d'accorder dans les marchés publics et notamment dans la restauration publique une part considérable des marchés à nos agriculteurs, dont je vous rappelle que 126 d'entre eux ont mis fin à leur jour depuis le 1er janvier et que nous parlons malheureusement trop peu de la situation agricole. Ça aussi, c'est un échec d'Emmanuel Macron. Son échec, c'est de faire en sorte que en 2023, nous ne serons plus autosuffisants en matière agricole, du moins que nous serons déficitaires d'un point de vue de la balance commerciale. Or, je crois que notre souveraineté alimentaire sera aussi l'un des grands sujets de l'élection présidentielle. Mais, vous voyez, pas d'auto-flagellation. La France est l'un des pays les plus propres au monde. La France est l'un des pays les plus vertueux au monde. L'air à Paris, il est plus respirable qu'il ne l'était dans les années 70. Et en quelques années, depuis les années 60, le S2O, les suies, les métaux lourds, tout cela a été divisé par 1000. Et c'est vrai que sous la pression des verts, on cherche aussi à cacher ce qui va mieux et ce qui va bien.
Est-ce qu'il y a une taxe carbone dans votre projet ?
Non, il n'y a pas de taxe carbone à proprement parler. Nous voulons simplement que, par l'outil fiscal, on puisse faire en sorte que la production nationale soit avantagée.
Concrètement ?
Concrètement, c'est-à-dire que un produit qui est fait par vos agriculteurs, qui est fait en France, est une fiscalité beaucoup plus faible qu'un pays qui est fait dans le cadre du Mercosur. Alors ça consiste d'abord à arrêter la démultiplication des accords de libre-échange. Parce qu'aujourd'hui, quand vos agriculteurs, vos éleveurs bovins sont mis en concurrence avec des éleveurs bovins canadiens, brésiliens, dont les coûts de production, dont les normes sanitaires, sociales, environnementales sont parfois 1, 2, 3 fois supérieures aux nôtres, ça crée une concurrence internationale dès loyal. Tout notre modèle économique résulte à la fois sur la protection et la projection. Et la première des protections, c'est évidemment d'établir le patriotisme économique et de donner partout où c'est possible, dans la commande publique, un avantage très clair à ce qui est produit, fabriqué en France.
Mais est-ce qu'un jour, l'écologie devra même primer sur l'économie ? Vous allez jusqu'où, en fait, sur votre discours-là ?
Il y a un équilibre à trouver. Mais ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, ce modèle prédateur d'Homo economicus qui vise à supprimer les barrières douanières, qui vise à supprimer les barrières tarifaires, le capitalisme prône également sur la défense de l'environnement. Évidemment que c'est cela qui a des conséquences. S'il doit y avoir une responsabilité humaine dans le dérèglement climatique, je crois qu'il incombe d'abord et en premier lieu à notre modèle économique. Je crois pas dans la décroissance. Je pense que tous ces concepts, si vous voulez, ne prennent pas en compte les réalités. Or aujourd'hui, dans notre société, la mondialisation qu'on nous vendait heureuse il y a encore quelques années a des conséquences extrêmement importantes en termes de concurrence déloyale, y compris d'ailleurs à l'intérieur de l'Union européenne. Et on a eu l'occasion d'en parler lors des dernières élections avec la directive du travail détaché.
Alors Nathalie et Françoise,
c'est pas une petite question du tout en fait.
Allez-y.
Vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez gouverner, on a compris. Est-ce que vous n'êtes pas un peu sous-staffé ? Manque de rassemblement de gens avec lesquels vous pouvez vous allier. Et si vous deviez me citer, mettons, un gouvernement, un premier ministre, 10 personnes, notamment avec des femmes aussi, est-ce que vous auriez la possibilité de le faire avec des gens?
Je suis pas candidat à la présidence de la République. Marine Le Pen aura l'occasion.
C'est quand même une réflexion de
vous exposer les gens qu'elle souhaite mettre en œuvre.
Est-ce qu'il y a des valeurs montantes en ce moment de vous?
Oui, il y en a. Je vous ai parlé de Jean-Paul Garot, magistrat. Mmh. Je vous ai parlé de Thierry Mariani, qui était ministre de Nicolas Sarkozy. Il y a des gens qui nous rejoignent, qui font le choix de travailler avec nous.
Ça fait deux personnes.
Les Français seront cohérents. Mmh. Et je crois que s'ils nous accordent les plus hautes responsabilités en mai 2022, nous aurons une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir gouverner. Et nous avons en tout cas, il y a des gens qui travaillent. Madame, vous aurez l'occasion de pouvoir décortiquer notre programme économique à la virgule près, et vous inquiétez pas, je sais que vous allez regarder tout ce que nous allons faire à la loupe, que la moindre virgule sera étudiée, et nous aurons l'occasion, un peu moins sur les autres que sur nous. Lorsqu'Emmanuel Macron était candidat à l'élection présidentielle, je n'ai pas entendu avec qui vous allez gouverner, avec qui vous allez diriger,
on pose des questions là à chaque fois, ne vous inquiétez pas, on est...
Donc il n'y a pas de problème.
C'est un marronnier.
Je vous rassure, et je rassure par la même occasion nos concitoyens qui nous écoutent, nous travaillons aujourd'hui avec rigueur, avec sérieux à la constitution d'un projet projet pour l'élection présidentielle. Et Marine Le Pen, au-delà d'être la candidate du Rassemblement National, sera la candidate de tous les Français, qu'ils viennent de droite comme de gauche. Nous avons vocation à nous adresser à tous. Et effectivement, nous aurons le temps du projet, la présentation du projet viendra.
Alors, avant l'élection présidentielle,
même si nos grandes idées sont déjà bien connues.
Les élections régionales, qui sont donc annoncées pour les 13 et 20 juin prochains. Vous serez tête de liste, Jordan Bardella, en Ile-de-France. Initialement, vous aviez dit non. Alors, si j'ai bien compris, Marine Le Pen vous a dit faut y aller ?
Non, pas du tout.
Expliquez-nous.
Oui, au mois de cet été, lorsqu'on m'a posé la question si j'allais être candidat à ces élections régionales, je n'avais pas souhaité l'être. Vous me direz, on a le droit de changer d'avis. C'est pas, je ne crois pas que ce soit un tort.
À l'automne dernier aussi, vous étiez déjà dans le
nom. Je vais vous donner les principales raisons pour lesquelles j'ai changé d'avis. C'est que, d'abord, lorsque vous êtes crédité et lorsque le Rassemblement National et Marine Le Pen sont crédités à 48% au second tour de l'élection présidentielle, ces sondages, ils vous obligent. Et la première des obligation est évidemment de mettre tous les chevaux dans la bataille à quelques mois d'une élection qui va être majeure pour notre pays. Donc j'ai souhaité aussi être dans l'arène aux côtés de nos autres candidats.
Alors, il y a
beaucoup de gens qui ont émergé dans le cadre de ces élections régionales. Il y a 13 grandes têtes de liste régionales. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis et aujourd'hui, tous les débats de société que nous avons partent de l'Île-de-France. Samuel Paty, les événements de Trappes, les phénomènes de bande dont 80% ont lieu en Île-de-France. Tous les grands débats de société que nous avons partent de l'Île-de-France. J'ai vu l'actualité francilienne et vous voyez, moi, la réalité que j'ai connue en Seine-Saint-Denis, à savoir ce que des enseignants appelaient il y a une vingtaine d'années dans un ouvrage « Les territoires perdus de la République », on est en train de les voir aujourd'hui se démultiplier sur l'intégralité du pays. Cette candidature est aussi symbolique parce que, j'ai pu m'impliquer au niveau national ces dernières années, remporter les élections européennes avec le Rassemblement National, mais je n'oublie pas d'où je viens et donc je conduirai la liste en Ile-de-France en étant présentant ma candidature en Seine-Saint-Denis.
Alors vous avez lancé votre campagne sur Twitter notamment en disant quelque chose comme « je vous appelle à faire le choix de la sécurité », il me semble.
Tout à fait.
Ce qui me surprend un peu parce que ça ne fait pas partie des compétences de la région, donc vous parlez de quoi en fait ?
Oh, c'est pas une compétence principale effectivement de la région. La région a possibilité d'agir à des leviers, notamment sur la sécurité dans les transports et dans les lycées. Et qui plus est, en région parisienne, où nos transports sont également confrontés à une insécurité majeure, croissante. Enfin, je veux dire, il n'y a pas.
Mais la police est une affaire nationale,
personne.
Jordan Bardella. Il y a des polices municipales, mais il n'y a pas de police régionale.
Oui, il y a la SUG, il y a la police de la RATP, il y a des polices des transports qui existent aussi à côté de la police nationale, et également en Ile-de-France. Et nous ferons un certain nombre de propositions, évidemment, sur le thème de la sécurité. L'une d'entre elles, que j'ai déjà annoncée cette semaine, est de faire en sorte qu'il y ait deux agents de sécurité armés en permanence dans chacune des gares de la région, parce que c'est aussi d'ailleurs un moyen de lutter contre la fraude, parce que je crois que la sécurité dans les transports est un phénomène majeur de nos concitoyens. Il n'y a pas une seule personne qui nous écoute, il n'y a pas un seul parent qui nous écoute, qui lorsque son fils ou sa fille rentre le soir, prend les transports, n'est pas inquiet par le fait qu'il puisse lui arriver quelque chose.
Mais vous aurez très peu de moyens pour agir. François Fressou.
Oui, mais il y en aura, voilà. Il y en aura et nous les exploiterons comme nous l'avons exploité dans les mairies que nous avons dirigées. Et je peux vous assurer que dans toutes les mairies qui ont été conquises par le Rassemblement National en 2014, où nos maires ont été réélus dès le premier tour, partout la délinquance et la criminalité a baissé.
10 municipalités.
Quel est votre objectif globalement au Rassemblement National sur ces régionales ? Combien de régions vous espérez gagner ou qu'est-ce que vous essayez de prouver ?
Je ne suis pas Madame Irma. Nous souhaitons remporter. On a zéro région. Donc une sera une victoire, deux une autre victoire, trois une très belle victoire et ainsi de suite. Ces élections régionales, elles vont arriver à quelques mois de l'élection présidentielle. Moi, je dis à nos concitoyens.
Vous les présidentialisez, vous pensez que c'est un.
Oui, bien sûr, comme nous l'avons fait dans nos mairies. Avant d'arriver aux responsabilités dans nos mairies, Fréjus, Hénin-Beaumont, Beaucaire, maintenant Perpignan, nous a dit ça va être la catastrophe, ça va être l'apocalypse. Nos maires ont été réélus partout dès le premier tour avec à chaque fois un objectif qui a été accompli, celui de la baisse de la fiscalité et de retour à la sécurité.
Pas partout. Hein.
Donc, quasiment partout,
voilà,
dès
quasiment
le premier
partout,
tour d'ailleurs.
À l'exception de deux.
Donc, je dis aux Français, l'élection présidentielle dans quelques mois, ça va être l'horizon de sortie de toutes les crises que nous connaissons. Crise économique, sociale, sécuritaire, sanitaire. Nous appelons les Français dans quelques mois à remettre de l'ordre dans le pays, dans un certain nombre de domaines, domaine économique, le domaine social, évidemment en matière de sécurité, de lutte contre la délinquance et de lutte contre le terrorisme. Le travail, il commencera avec cette dernière marche avant l'élection présidentielle, qui est celle des élections régionales. Et pour l'instant, les sondages nous permettent d'espérer des perspectives de victoire.
Vous pensez que ça jouera sur quel thème précisément? Parce que remettre
rapidement
de l'ordre, c'est un peu large.
Très, très rapidement.
L'élection présidentielle?
Oui, c'était assez plutôt économique. Vous croyez encore que c'est immigration, sécurité? Les sondages sont...
Eh bien, écoutez, soit on continue avec la dérégulation tous azimuts, qui a été défendue par Emmanuel Macron, le laxisme à l'égard de l'insécurité, de la délinquance, les transferts de souveraineté toujours plus importants vers Bruxelles et une fiscalité qui écrase aujourd'hui nos chefs d'entreprise et nos classes populaires, ou alors on décide d'arrêter cette dérégulation, de se tourner vers la raison, l'équilibre, le bon sens. Et c'est ces trois grandes valeurs qu'on va essentiellement défendre pendant l'élection présidentielle.
Merci beaucoup, Jordan Bardella, d'avoir passé une heure avec nous. Merci à Nathalie Saint-Cricq et à Françoise Fressoz. Merci aussi à toute l'équipe technique de Questions Politiques et à Stéphanie Boutonnat qui nous a aidé à préparer cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine avec Ali Badou. Bon dimanche.